vous êtes sur Canal Sud et on a l'habitude, et même on peut, et on ne se gêne pas, on coupe un morceau de musique.
Oui.
On peut le couper.
Oui.
Et nous sommes le premier vendredi du mois. C'est donc l'installation dans les locaux de Canal Sud, le vernissage. Alors, c'est une exposition qui s'appelle « Laissez parler la poudre », présentée par Bernard Fontaine avec la complicité très discrète de Saoud Salem, qui est inscrit.
Elle traverse la salle, quand même.
Elle traverse la salle. Oui, discrète, non, visible, oui. Et ensuite, dans le titre, donc, c'est Laissez parler la poudre, 323-JAV-FDM. Alors, d'abord, bonjour Bernard Fontaine. On va donc parler un petit peu. Est-ce qu'on parle du titre, là? Parce que il y a besoin un peu d'explication de texte.
Oui, c'est simplement parce que j'ai utilisé de la poudre. De la poudre, mais bon.
Mais qui parle pas, quand même.
Non, non. D'accord. De la poudre, comment on appelle ça,
explosive.
À canon, ouais, voilà. Donc c'est des mèches, c'est de la poudre, c'est des choses qui explosent et qui brûlent. Bon, qui brûlent et qu'on peut de temps en temps maîtriser, quoi.
Mais on voit rien de cela dans l'exposition.
Non. Non, ce qu'on voit, c'est la fumée qui reste.
Ah voilà. Et cette fumée a été captée
et après, la fumée,
sur des petits formats carrés.
Et la fumée, on essaie de la fixer, puis voilà quoi. Mm-hmm. Sinon, bon, elle pourrait disparaître aussi, mais voilà, c'est juste de la fumée, en fait, c'est une sorte d'enfumage magistral.
Donc c'est ça, en fait, il ne reste que la fumée, c'est la parole de la poudre, qu'en fait, c'est ça.
Ben oui, une fois que la poudre, il reste plus de la fumée. Ouais.
Et le sous-titre 323 JAV. Bon. Alors JAV, normalement, c'est pas comme ça qu'on écrit, FDM.
C'était jour. Avant.
Oui, mais normalement, quand on met...
La fin du monde, voilà.
Ah, d'accord. Ouais, donc, on est à 323 jours de la fin du monde.
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui.
Exactement. Enfin, aujourd'hui, encore pour quelques heures. Après, on sera à 322, etc.
Ça, c'est un scoop
Oui, parce que c'est le 26 décembre ou le 22, je ne me rappelle plus trop exactement.
Bon, on n'aura pas Noël, quoi.
Voilà, c'est avant la Noël, oui.
Jusqu'au bout, hein.
Ouais. Donc, voilà. Et donc, on doit s'attendre en 2012 à voir la fin du monde. Donc, c'est plutôt intéressant. Bon, je ne sais pas qui a dit ça, mais bon, c'est pas grave.
Après tout, s'interroger de quel monde on parle.
Oui. Oui, ça serait peut-être bien qu'on en finisse avec celui-là, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était juste... Ça dépend beaucoup quand on choisit un titre ou tout ça, des circonstances. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'annonçait la fin du monde, donc j'ai trouvé que c'était, après tout, pourquoi pas
le croire. Oui, mais on peut pas dire quand même que ça soit si anecdotique que ça, quand même, parce que il y a de la fumée, on a parlé de la fumée, ça c'est la parole de la poudre, mais quand même, il y a des textes, et justement, ces textes parlent un peu de ce monde-là, et le critique ce monde-là, quand même. Il y a parfois de l'humour très grinçant, et il y a aussi des phrases d'ailleurs qu'on ne s'attendrait pas à voir là, et qui sont soi-disant signées, c'est du faux ça ou c'est du vrai
dans
le texte?
Non, en grande partie elles sont vraies quoi. Ouais. Et notamment les phrases de Sarkozy ou de Martine Aubry quoi. Elles sont vraies, mais bon, ou Nicolas Hulot aussi. Mais Nicolas Hulot, j'ai perdu l'idée.
Il reste
dans une bienveillante observation, je crois.
Voilà,
c'est ce qu'il ferait d'ailleurs assez souvent en général. Voilà. Alors effectivement, ça fait partie de l'actualité, puis ça fait partie peut-être, bon, les élections, j'ai pas grand chose à en dire, donc c'est pas la... S'il y a quand même un titre qui est Occupez-vous du vote, nous ferons le reste, quoi.
Hein,
ou nous occupons du reste. Mais sinon, en gros, oui, voilà, c'était un peu montrer comment est le monde aujourd'hui, et que si finalement il finissait, ça me dérangerait pas trop.
Donc c'est le monde dans lequel on est complètement embourbé, ce monde contemporain qui nous entoure.
Oui, avec des actualités complètement, moi que je trouve féroces. Par exemple, quand on entend parler de la Grèce, j'ai quand même des frissons dans le dos, quoi. Mm-hmm. En même temps, on nous parle de dettes, de n'importe quoi, et puis on nous parle de 30% qui n'ont plus de quoi vivre, qu'on fait des repas d'urgence dans un pays européen, quand même. Je veux dire, c'est pas la famine au Sahel, là, hein. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose de provoqué directement par une politique, quoi.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Alors, ce monde-là, eh ben, peut-être que s'il pouvait disparaître en 2012, moi, ça me va.
Oui.
ça me va. Après, bon, est-ce qu'on est obligé de disparaître avec? Ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Mais bon, même je serais presque prêt à jouer le jeu de disparaître et qu'on en refasse un autre. Avec d'autres, mais tant pis.
Là, on est en plein dans le sens de l'expo. Je vais revenir, moi, juste à quand on rentre dans la salle, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, on voit sur les deux murs, à hauteur assez basse, justement, bonne hauteur pour les yeux, quoi, je trouve, contrairement mais on n'a pas obligé de lever le nez. Donc toute une série de petits tableaux, donc on l'a dit, avec des traces de fumée, tout d'un même format petit. Alors je ne sais pas si c'est 50-50 ou...
Non,
30-30. 30-30, oui, d'accord. C'est peut-être l'accumulation qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a, qu'ils sont plus grands.
Oui.
Et alors il y a ces phrases, alors il y a du texte dedans, dans certains, qui donc dans mélanger la fumée parce que il y a de la peinture qui repassait dessus, donc vous arriverez à défricher quelques mots mais pas des phrases complètes. Par contre, il y a des petits Bristol blancs où là il y a des phrases entières ferait presque des titres de tableau même.
C'est le titre hein, de toute façon.
C'est le titre du
tableau. En grande partie si on regarde, bon, c'est décliné comme ça, donc le premier, je me rappelle plus, mais c'est Triste Obsession, bon,
oui.
C'est un bouquin que j'ai acheté il y a pas très longtemps sur un bilan de vie
lente, triste obsession et lente quelque chose après.
Oui, il y a vie d'angoisse, triste obsession et lente, je sais pas, lente dépression peut-être, un truc comme ça. Donc quelque chose dans ces et qui est un bouquin que j'ai trouvé dans une librairie, bon, qui m'a intéressé, c'est-à-dire c'est la psychopathologie à travers les âges, quoi. Depuis, est-ce que les Grecs dépriment, enfin les Grecs anciens, hein, pas les ceux d'aujourd'hui, on sait qu'ils dépriment, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les Grecs anciens étaient vraiment sur les mêmes pathologies, sur le même questionnement sur le monde? Et effectivement, est-ce que c'est simplement penser le monde qui permet de, enfin qui fait qu'on déprime, quoi, obligatoirement, puisque on s'interroge sur quelque chose qui n'est pas la réalité, quoi. D'ailleurs, il y a une autre phrase qui est comme ça. Je comprends rien au réel, mais par contre, mes rêves ont du sens, quoi.
Oui.
Voilà. C'est, à mon avis, ça pourrait être aussi un autre titre de l'exposition, dans la mesure où effectivement, oui, il me semble quand même qu'il y a quelque chose là-dedans, quoi. C'est-à-dire, et à chaque fois qu'on retrouve ces phrases, fille d'angoisse, triste. C'est pas que je sois particulièrement triste. Hein. Si on me connaît un peu, on voit que je suis pas spécialement très très déprimé, mais quand même c'est un questionnement habituel chez moi de me poser des questions sur ce que je vois autour de moi et ça me fait pas rire, enfin ça me fait pas rire tout de suite, quoi, en tout cas ça me fait rire au deuxième degré. Alors après on peut y trouver effectivement quelques phrases de ceux qui sembleraient diriger le monde aujourd'hui, comme par exemple Sarkozy, où tout d'un coup on entend le trottoir de la distanciation est encombré. Donc déjà on se pose des questions sur ce que ça peut vouloir dire.
Faut savoir où est-ce qu'il a été la piquer celle-là, parce que
c'est quelqu'un qui lui a écrit le discours à première vue. Et en plus, il y a une suite qui est pas sur la petite étiquette, mais c'est il vaut mieux être sur celui de la solidarité. Donc là, le trottoir de la solidarité, on voit pas trop où il est, et puis on voit pas comment Sarkozy passe de l'un à l'autre. Surtout que la distanciation, bon, c'est pas son fort en tout cas.
Je sais pas, le trottoir est large pour rentrer au fourré.
C'est ça. C'est distanciation, ça a dû être pris dans le sens de distance.
Distance. Oui.
Mais pas dans le sens de faire un petit pas de côté pour regarder si ça allait bien, quoi, ce qu'il faisait. Et ou alors on a Martine Aubry aussi. Je suis.
Mais en fait, qu'on le veuille ou non, ces gens-là construisent, font partie de notre monde, quoi, en fait, de ce monde.
On nous l'impose. Je vois pas comment on peut échapper au moindre mot de Sarkozy, de ses confidences. Enfin là, pour le moment, c'est ça, des confidences, des machins. Si je suis pas président, j'arrête la politique. Bon, on s'en fout, quoi. Nous personnellement, on s'en fout. On se foutait même d'ailleurs qu'il soit même dans la politique avant. On n'avait pas remarqué, mais voilà. Mais c'est ça, c'est qu'on est pris dans ce monde. Et à des moments donnés, je me demande si c'est le monde réel, celui-là. Et si le mien est finalement pas le monde, le vrai, quoi. C'est-à-dire le vrai, celui du sensible, de la prise en compte des gens, enfin des trucs comme ça. Sinon, bon, après, on a un discours. Alors, c'est pas de l'abstraction, parce que malheureusement, ça a des conséquences, hein, je veux dire. Mais c'est un truc qui nous dépasse, enfin qui nous est un peu étranger, quoi. Alors en fait, on peut vivre peut-être sans ça, mais bon, quand même, ils ont des influences sur notre monde, celui qu'on aimerait vivre.
Et on pourrait oser un raccourci interprétatif par rapport à cette poudre aussi, peut-être, en disant que tant qu'à faire.
Ah, mais...
c'est un bon outil.
À mon avis, bon, je veux dire. Mais je suis pas le seul. C'est pas tellement une position révolutionnaire ou pas, mais moi j'entends beaucoup de gens de temps en temps dire bon. Et j'avais un collègue par exemple qui disait souvent bon, ce qu'il faut dans cette histoire, c'est une bonbonne de gaz, quoi. Bon, il avait cette expression qui revenait un peu souvent, c'est-à-dire bon, c'est pas la peine de discuter là. On est déjà un peu trop loin. Il faut faire sauter le truc et on redémarre quoi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire on élimine, on éradique, on disperse façon pulse, comme on dirait Bernard Blier. Mais voilà, et puis après on refait quelque chose parce que sinon ça sert à rien. On est toujours sur de l'aménagement et c'est pour ça que bon de temps en temps les élections nous paraissent un peu dérisoires. C'est-à-dire on est toujours sur de l'aménagement d'un petit truc. Bon, il faut
le moins pire,
Voilà, le moins pire. Bon, le moins pire, ça m'intéresse pas quoi. Mmh. Bah, je veux dire, ça ne m'intéresse pas parce que bon, c'est quand même le pire. Hein, il y a toujours pire dedans. Voilà. On n'a pas trouvé de solution. Alors c'est pas obligatoirement une exposition politique. Hein, je veux dire, c'est pas.
Non, mais il y a quelques clins d'œil. Par exemple, dans les petites phrases Bristol, il y en a une quand même que j'aime bien. Certains sont plus violents que d'autres.
Hein. Certains beurs.
Certains beurs sont plus violents que d'autres. Hein. Ils défoncent nos trottoirs à coups de marteau-piqueur.
Voilà.
Intéressante, non?
Qui l'a dit, celle-là?
C'est dans un livre qui s'appelle de Hubert Lucot, je crois, et qui c'est tout un ensemble de petites phrases à l'usage des politiques d'aujourd'hui. Donc pour le moment, on n'a encore entendu personne
la reprendre.
Mais c'est vrai que
c'est chose faite.
Oui, voilà. C'est se dire bon, voilà, on pousse à fond voilà sur la violence. Ben oui, effectivement, on a souvent des Arabes qui nous défoncent les trottoirs à coups de marteau piqueur et on ne sait pas pourquoi en fait. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Des fois, ils ont même des pelleteuses.
Oui, voilà. Et, donc, ils ont une certaine violence par rapport à la rue qu'on ne comprend pas. Voilà. Et elle n'est pas plus dérangeante, finalement, que l'autre.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce clin d'œil qui est fait à personne quand on lit ça, parce que ça renvoie à plein de choses. Et de voir cette phrase dans l'exposition de peinture, comme je disais, comme on n'arrive pas forcément à décrypter tout ce que tu nous as dit, ça ne se décrypte pas forcément, puisqu'on n'arrive pas à lire tous les textes qui sont cachés derrière. Moi, je trouve ça intéressant, parce qu'on a du recul, on dit, mais attends, mais que veut dire cette personne? Alors, on continue et on trouve de l'autre côté des tableaux, enfin un tableau. Un très grand tableau, alors lui, il fait...
1/1, je pense. C'est ou un 20 sur 20.
Ouais, bah, c'est ça.
Je ne me rappelle plus trop.
Ouais. Et donc là, on se dit, mais au fait, on est dans une expo de peinture. Et en effet, il y a un travail quand même de peinture.
Oui. De temps en temps, j'y arrive. Ouais. Oui.
Comment on en vient à cette nécessité de réfléchir sur le monde, etc., à dire, mais je vais présenter ou je vais poser ça sur la toile, quoi, enfin sur des cadres et de la toile, donc un tableau.
Eh bien, je me le demande quand même. Mais non, après c'est effectivement s'autoriser un peu à quelques expressions, enfin de l'expression, quoi, enfin comme ça. Et, alors, il se construit un peu par strates, comme il est là, en fait. C'est-à-dire, j'ai écrit, puis j'ai mis de la fumée, j'ai mis du sable, et c'est un peu une composition comme ça. Alors, c'est intéressant parce que quelqu'un m'a dit, bah, c'est la première fois que tu arrives à faire quelque chose de déséquilibré. Alors, c'est un compliment. C'est un compliment. Il y en a une, elle est très déséquilibrée, effectivement, celle-là. Simplement parce que, effectivement, elle est pas cadrée. Enfin, j'ai beaucoup, de difficulté à m'autoriser à faire des gestes quoi et là eh ben c'est cadré un peu parce que peut-être qu'il y avait du vent quand j'ai fait ça et que le sable s'est un peu déporté vers la droite et donc il a créé une sorte de dérapage qui fait que effectivement ça le rend plus intéressant quoi. Voilà, ouais, peut-être que j'exagère un peu, mais c'est simplement parce que je réagis par rapport à ce que m'a dit cette personne, bon, que j'aime bien, pareil, et quand il me dit ça, je me dis, ah ben, finalement, peut-être que je suis en train de faire une démarche, quoi. Et bon, ça m'interroge, et ça peut-être autorisera à faire autre chose, quoi, voilà.
Voilà, déjà une démarche, parce que c'est pas la première fois que tu exposes à Canal Sud, mais souvent, on restait dans des techniques mixtes, on va dire, hein, le oui, son, tous les supports d'expression que tu utilises déjà, soit par la radio, soit par l'écriture. Et là, tout d'un coup, en effet, on se retrouve plus avec des tableaux présentés.
Oui, ouais. Oui.
Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que même par rapport à la fumée, quand tu dis « je ne m'autorise pas », justement, on a l'impression que tu es en arrêt devant le tableau, que tu n'y reviens pas trop dessus.
Non.
Voilà.
Non, très peu. Enfin, il y en a, finalement, si on pouvait voir les images et donc les commenter, il y en a certains où je suis vraiment revenu parce que je les ai tout repeints dessus et puis j'ai recommencé.
Ah oui, carrément.
Ou alors, il y en a certains sur lesquels je suis intervenu après, quoi. Ou il y a certains qui partent de l'écriture, puisque c'était plus simple pour moi d'écrire d'abord et puis d'enfumer plus tard. Et il y en a certains qui sont enfumés d'abord et écrits ensuite. Alors ça, c'est, il faut aller les voir, hein, pour savoir lesquels sont dans ce sens. Alors ça change complètement la façon de, ça change la façon même de transmettre, parce que ceux qui sont enfumés avant, sont plus lisibles finalement.
Oui,
l'enfumage a lieu avant le dire,
ça nous efface.
Voilà, ça efface moins. Donc,
L'usage, par exemple, à un moment donné, d'une peinture dorée avec du sable, etc. Là, ça efface le texte.
Oui, voilà. Et c'était effectivement la superposition de d'écriture fait qu'elle disparaît au bout d'un moment. Quoi.
Oui, c'est un peu le palimpseste.
Mais si quand même les textes sont très près du titre lui-même, donc ce qui fait que c'est de la répétition quand même, hein, il n'y a pas de grande histoire racontée, sauf un qui s'appelle qui est autour d'un conte qui s'appelle C'était Noël, un conte de Frédéric Durenne-Matte, qui est un conte très très court et où il raconte un Noël quoi, avec le petit
Noël terrible
avec le petit Jésus et qu'il est en train de manger la tête du petit Jésus et qu'elle a le goût du massepain. Bon, enfin voilà, c'est un truc un peu bizarre, on sait pas trop ce qu'il veut dire quoi, mais voilà, celle-là est vraiment construite autour de ce texte et voilà. Mais en grande partie, il n'y a pas d'histoire, quoi. Il y a simplement... alors, soit ça peut être... Il y en a un qui est peut-être un peu moins visible, c'est l'affaire de tous, peut-être. Et qui... Et qui est... j'ai pris tous les démarrages des discours néolibéraux, quoi. Enfin, néolibéraux, en tout cas, de ceux qui défendent le néolibéralisme en général. C'est-à-dire tous ceux qui nous disent « Tout le monde sait, il est évident que... » Il est certain que, enfin, tu vois, toutes les les nominations comme ça qui font que, quand on dit que tout le monde sait, ben, on a vraiment beaucoup de mal à dire, mais moi, je le savais pas, ou moi, je croyais pas ça, hein. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un, tout le monde croit que, alors ça veut dire que si tu crois ça, t'es un abruti, quoi. Donc, hein, c'est un peu ce genre de truc, et vous remarquerez, alors les Alain Menck, enfin, ou les Nicolas Bavrez, enfin, tout ça.
Preuve d'évidence, soi-disant.
Voilà. Il est évident que, alors c'est un truc,
ça permet qu'on ne peut pas objecter une évidence. Ben,
oui.
On a du mal à objecter.
Et sur des choses relativement simples, alors bon, il y a eu un livre là-dessus, ça s'appelle Le discours du néolibéralisme, et qui décrypte cette façon de faire, c'est-à-dire qu'en même temps, on ne peut plus avoir de détracteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit il est évident que le chômage est dû au fait que les charges sociales sont trop élevées, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? puisque c'est évident, on ne peut pas dire, ou tout le monde sait que les charges sociales empêchent de créer des emplois. Bon. Alors, à partir du moment où on dit ça, bon, on est coincé. Et ce qui fait que, effectivement, et c'est vrai que petit à petit, ça revient au grand tableau dont tu parles, dont tu parlais tout à l'heure, et qui est centré autour d'une phrase, quand même, qui pour moi est très importante, c'est même si elle est assez banale, quoi, hein, mais importante, c'est si une société traite ses adultes comme des enfants, il est presque certain qu'elle traitera ses enfants comme des adultes et réciproquement. Alors le réciproquement est très intéressant parce que effectivement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et que ça pourrait pas ne pas être réciproque. Mais là, c'est
de traiter les adultes comme des enfants.
Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, si on traite les adultes comme des enfants,
il y a quand même une infantilisation.
Elle est réelle. Non, mais je veux dire, c'est la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on traite les enfants comme des adultes, effectivement, ça veut obligatoirement dire aussi qu'on va traiter les adultes comme des enfants, quoi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder une émission de prime time de TF1. Là, on est traité comme des enfants en tant qu'adultes. Et puis après, il y a les centres de rétention, le fait qu'on veut baisser l'âge des enfants.
Pour aller, des enfants, de responsabilité des enfants.
Tout d'un coup, voilà. Et là, on les prend pour des adultes, alors qu'en fait, ils ne sont quand même que des enfants et qu'on pourrait aussi avoir des rapports parents-enfants ou adultes-enfants qui seraient tout à fait normalisés. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire, mais ça veut dire que bon, on peut faire autre chose. Autrement.
C'est intéressant de voir aussi que cette notion d'infantilisation correspond à de l'enfermement ou du contrôle. Parce que dans la société pour les adultes, c'est ça, c'est qu'on ne peut plus rien faire soi-même sans être contrôlé. C'est des revendications de certains qui disent on ne peut plus agir à notre guise. À chaque fois, il y a soit des normes, des contrôles, du respect. Et c'est ça aussi... Et pour les enfants, dès l'instant soi-disant on les considère comme des adultes, mais en fait ça revient à les enfermer, contrôler.
Et ça correspond aussi à la façon dont on a vécu, enfin bon, peut-être les 10-15 dernières années, c'est-à-dire que tout d'un coup on légifère sur à peu près n'importe quoi, on empêche tout un tas de comportements, et pendant ce temps-là, on a une société complètement incivile. C'est-à-dire qu'on se fait insulter pour rien. Enfin, bon, je parle pas des cités, moi, hein, je parle vraiment du quotidien, quoi, du quotidien tout bête où il suffit d'un rond-point, d'avoir oublié un tout petit peu la priorité, tu te fais incendier. Quoi.
Non, même chez les commerçants dans les services publics, voilà. etc. Avant, on était clients, on était rois, soi-disant, mais maintenant, on nous sommes d'obéir.
Voilà, ouais.
On a des injonctions à ouvrir notre sac, on a des injonctions à passer de ce côté-là et pas de ce côté-là. En fait,
donc, on légifère de la réglementation, mais pendant ce temps-là, les rapports entre les gens se dégradent de plus en plus.
Totalement.
Ce qui fait que, effectivement, ça crée un climat d'insécurité. C'est pas le climat d'insécurité, il se crée simplement parce qu'on légifère de plus en plus. Donc, on a l'impression que tout est finalement, notamment la victimisation, en tout cas, bon, tout le monde veut avoir des indemnités, des compensations, tout ça, et puis bon, pendant ce temps-là on oublie que bon, on vit quand même dans une société ensemble et qu'on pourrait déjà en discuter, quoi, un tout petit peu. Et il y a effectivement dans les phrases que je tirais donc de Hervé Hulot, je crois, que les gens ne se parlent plus, mais ils téléphonent beaucoup, quoi.
Oui.
qui est une façon de voir notre société très courte, très rapide, c'est un très bon résumé. Les gens ne se parlent plus, mais ils passent des heures au téléphone. Effectivement,
quand on prend les transports en commun, voilà. c'est très flagrant.
Et de quoi on parle, on ne sait pas. On sait pas, on parle en général de conneries, bien sûr, puisqu'on n'a pas le temps de poser la conversation, quoi. Qui permet, elle, de connaître l'autre et d'interagir, quoi. Voilà.
On voit que cette exposition à Canal Sud est vraiment chargée de sens. Hein. Et ça, bon, bien sûr, vous ne verrez pas tout ça. C'est pour ça que c'est bien pour ça la raison de l'entretien, c'est que c'est un complément à l'exposition.
Complément à l'exposition, c'est dans le sens où effectivement peut-être quand on fait un geste. Sur une toile, bon, je veux bien. Finalement, il y a tout ça derrière, quoi. Peut-être. Enfin, pour certains, en tout cas. Pour moi, en tout cas, je suis obligé d'avoir ça. Sinon, je fais rien.
Mais est-ce que tu as senti à un moment donné le passage, parce que quand même, tu étais beaucoup sur l'écriture, la lecture, et tout d'un coup, on va dire l'art plastique, quoi. C'est-à-dire. Et surtout qu'au début, bon, ça a été surtout sur des objets, quoi. Présenter, quoi, le fait de. Et ça donne une autre dimension à l'expression, quoi. C'est ça que tu.
Oui, c'est tout d'un coup se rendre compte.
Je sais pas, je dis ça pour les gens qui n'ont pas passé le cap, quoi.
Ben, c'est se rendre compte tout d'un coup. Ben voilà, par exemple, je faisais des émissions, moi.
Tu
des
fais
des émissions aussi.
Radio,
les émissions, elles sont bavardes, oui. Mais je faisais des expositions très bavardes où il fallait au moins que je fasse de l'humour sur ce que je pouvais faire pour le mettre à distance. Or là, moi, je ne me suis pas senti obligé d'écrire. Alors j'écris un tout petit texte sur le site de Canal Sud. Mais finalement, je ne l'ai pas terminé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'aller plus loin que ça, puisque c'est sur les murs, quoi.
Ouais.
Donc, il n'y a plus besoin d'expliquer tant que ça, et que peut-être, après tout, ça se suffit. Les choses se suffisent à elles-mêmes.
Peut-être pas, mais en tout cas,
c'était en tout cas une véritable volonté de pas noyer le truc de texte, quoi. Voilà.
Oui.
C'était de se mettre un peu à distance et de se dire, bon, ben, on se met à l'épreuve de l'expérience, quoi. C'est-à-dire que quand on fait une expérience plastique, on n'a pas à expliquer. Et on peut aussi avoir. Alors, peut-être qu'une expression comme l'art pour l'art, comme disait François Morlet, ça me plairait bien. Bon, moi, j'ai un peu plus de difficulté à aller jusqu'au bout de ce truc. Alors, faire des choses pour faire des choses, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà.
Oui, parce que quand on se met en action, on se met en action quand même motivé par tout ce qu'on a en soi, quand même. Il y a cette confiance-là qui fait que. À moins qu'on veuille faire du commerce, ou je ne sais quoi.
Bien sûr.
Canal Sud, c'est pas tout à fait.
Non. Et puis moi, j'aurais des difficultés, quoi, quand même, à faire du commerce. Donc je sais pas, non, j'arrive pas. Mais voilà, bon, c'était un peu l'idée de se détacher un peu de ça, quoi. De se détacher de. Alors sans être dans la justification, mais dans une sorte d'explicitation trop féroce de sa maladresse. Voilà, en fait, je veux bien être maladroit, mais je veux plus le dire.
Non, mais en plus, surtout, ça peut faire confiance aussi aux personnes qui viennent qui auront une lecture de tes textes ou de cela, ça c'est important aussi. Le regard extérieur n'est pas forcément justifié, n'a pas à être justifié par ta démarche. Quoi.
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, là, par exemple, le simple fait que quelqu'un qui est peut-être venu voir diverses expositions de moi et qui tout d'un coup me dit là vraiment il se passe quelque chose, je suis très content, quoi. Voilà, parce que il m'a semblé que là effectivement il avait regardé tout, il avait vu que j'étais quelqu'un d'ordonné dans cette expression alors que je suis très désordonné, et que effectivement là je m'autorisais à être dans le désordre, à être dans quelque chose de déséquilibré. Ça me plaît bien, quoi. Alors je sais pas si je pourrais suivre, mais je vais essayer. Enfin, je vais essayer de faire autre chose. Enfin, en tout cas, dans cette autorisation à faire comme ça tombe, quoi. Et plutôt que d'essayer de faire quelque chose de plus équilibré.
Oui.
Voilà. Hein, dans le comme ça tombe.
Le déséquilibre, c'est très intéressant, hein, parce que ce qui provoque parfois.
Oui. En plus, mon équilibre, il est pas spécialement équilibré, mais quand même. C'est bien que c'était très bien. Au moins, vraiment, là, je suis très content d'avoir posé ça sur les murs, pour avoir un retour pareil, quoi.
On sent qu'il y a vraiment une proximité entre le sens et la forme, quoi.
Oui.
Pas pour tout le monde ou pour tous les gens qui installent, hein. Au contraire, des gens même se cachent derrière leurs tableaux, des choses comme ça. Et juste, on a le temps de faire un petit mot sur la complicité de Saoud Salem.
Pour moi, c'est toujours. Voilà, il met juste quelque chose, trois fils de fer barbelé qui traversent la salle. Et pour moi, ça a toujours beaucoup de sens, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui, à la fois, déséquilibre la salle, repose des cadres, interroge quand même beaucoup les gens. Et c'est toujours. Et en plus, quand même, il faut que je reconnaisse un truc, c'est que quand même, c'est toujours un peu lui qui installe. Mes expositions et que je, enfin mes installations, et je trouve bon qu'il a une sorte de compréhension de ce qu'on veut faire assez rapidement. En fait, même, mais il dépasse ça, quoi. Moi, j'aurais fait peut-être des paquets de tout ce machin. Enfin, j'aurais pas. Et là, le simple fait de faire une ligne de petits carrés, tout ça prend une grosse importance. Et c'est pour ça que même si on peut penser qu'il a pas eu le temps ou il était pas trop en forme, en tout cas pour faire quelque chose de peut-être plus important, en tout cas, il est présent dans tout, quoi. Et il est présent même dans mon expression elle-même, quoi. Je veux dire, c'est à chaque fois je me pose des questions par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il a fait, qui m'interroge toujours autant. Comment on peut faire des choses comme il a faites et comment il peut les abandonner et comment on est capable d'abandonner un truc pareil, quoi. Enfin, voilà, ça m'interroge. Et à partir de là, comme ça m'interroge, j'essaie de comprendre. Alors, comme je dis, pas si bavard que ça quand même là-dessus, et j'essaie de comprendre. Donc, je suis. Mais voilà, je trouve ça très très intéressant, parce qu'il faut il faudrait avoir un véritable catalogue sur Saoud Salem pour se rendre compte de sa démarche, et alors là ça devient très compliqué, quoi. Très très compliqué. Et on peut dire qu'à ce moment-là, c'est du même niveau que tout un tas de plasticiens dont on parle très souvent, c'est du même niveau. Voilà, bon. Ça fait peut-être beaucoup, mais enfin bon.
Pour
quelqu'un que finalement personne connaît, mais qui est pas si connu que ça, et pour moi qui a vraiment une importance, en tout cas pour à la fois permettre une expression et à la fois une démarche qui se complexifie à l'extrême, quoi, et qui va dans un sens de la simplicité de son rapport au monde, qui fait que bon, ça me, enfin voilà, je suis toujours dans l'interrogation. Peut-être un jour il peut parler peut-être plus facilement que ça, il pourrait le dire peut-être à ma place et que ça sera intéressant. Enfin, peu importe, hein, un peu pour tout. Moi, je veux bien faire l'exégèse. Enfin, si je comprends à peu près. Non, voilà. Il y a vraiment un gros, gros travail. Et une sorte de vision, enfin, des choses qui est vachement précise, quoi.
Donc, j'avais bien.
Et qui entraîne. Et alors, effectivement, pour moi, c'est un élément très, très important de l'exposition, quoi. Peut-être, finalement, ce qui la lie, tout simplement, avec un grand trait qui barre les deux parties, quoi.
Donc, c'est bien une complicité. J'avais utilisé le mot.
Oui. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il l'a vu avant? Est-ce qu'il a vu l'expo avant de décider de faire ça, ou est-ce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire?
Il connaît des trucs que j'avais fait. enfin des morceaux en tout cas de ce que j'avais pu faire.
Vous avez présenté une partie au 22,
voilà,
il y avait
voilà,
un travail.
Parce que j'avais déjà exposé ce travail, une partie en tout cas de ce travail ailleurs. Mais en même temps, il y a le. Alors d'abord, l'habitude de l'espace aussi, hein, il connaît bien le terrain. Hein, je veux dire, c'est quand même. Mais en même temps, bon, une sorte d'intelligence du moment, quoi, de l'instant. Et c'est ça, parce que ce qui est posé là, c'est un instant. C'est un instant et ça reste. Alors après, bon, ça interroge les gens. Hein, je sais pas trop ce qu'ils en pensent, mais on verra bien au fur du temps. Ça interroge toujours. C'est-à-dire que pourquoi c'est là? Alors il y en a qui nous ont dit c'est la Palestine, c'est machin. On part dans tous les délires. Mais ça peut être aussi un carré avec des vaches. Hein, je veux dire, c'est pas. C'est. Ouais, et ça peut être aussi simplement le symbole du fil de fer barbelé, ou peut-être la liberté qu'il y a derrière le fil de fer barbelé. Parce que c'est complexe le fil de fer barbelé. On n'est pas dans un. C'est tellement utilisé depuis tellement d'années, ça a tellement galvaudé partout qu'on ne sait plus si ça décrit l'espace de l'enfermement ou ça décrit l'espace de la liberté.
Ça délimite quand même, c'est quand même une frontière.
Ça délimite, ouais. Ça délimite en tout cas un intérieur et un extérieur.
Une image qu'on voit beaucoup dans les images de fin du monde, c'est toujours des champs avec des barbelés. Voilà. Plus ou moins écroulé.
L'apocalyptique, il est du côté du fil de fer barbelé.
Mais il est très présent, le fil de fer barbelé. On le voit peut-être pas, mais il est très très présent dans notre monde, dans ce monde-là.
Oui, bien sûr.
Il est très très présent. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. C'était Canal Sud. L'entretien donc avec les exposants, en tout cas l'exposant du mois de février 2012. Et vous pouvez voir donc l'installation qui s'appelle Laissez parler la poudre, Bernard Fontaine, Saoud Salem, dans les locaux de la radio Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril. Merci bien. Et bonsoir.
À bientôt.